comme un possédé. Les transports. J'adore pas. J'adore pas.
Les avions.
Il se passe toujours quelque chose. J'adore pas. Les petits cons. Les bébés. Il y a un chemin. Ont besoin de lait et le père ne peut leur en donner.
Les boulevards. Entre les gouttes des boulevards,
la pluie bénie, le boulevard de crime. Il était une fois d'or. La nuit,
les places.
La nuit, j'adore pas. Une femme en panne est pour le moment décédée. Demain. La nuit, jolie.
Comme je vous aime.
La nuit, c'est pas vrai. Infini.
Malade.
La nuit,
malade.
Les gros ploucs. J'ai la classe. La classe ouvrière. Je suis tout à vous.
Fashion.
Les tropiques.
Quelque chose.
Les petits fous.
Je garde tout très bon.
Beau. Pour la bonne bouche.
Très beau pour moi.
J'adore.
Mais j'adore.
Dans le genre humain.
J'adore. On fait pas mieux.
Mais les petits clapets.
Que c'est presque. Les petits grignotements. Qu'elle est gaie.
J'adore pas. J'aime les chats.
Le jour, il se lève.
J'adore.
Une boule qui est l'été.
Qu'est-ce qu'il y a de meilleur?
Oh, que la vie.
Ah, quelle rigolade.
C'était une expérience.
Oh, écoutez.
Très agréable.
Ah, quelle rigolade.
Vous voyez ce que je veux dire? Une expérience.
Et là, magnifique.
Nous sommes toujours là. Extrêmement fructueuse.
Plaisir de vous voir, mon âme. Que dois-je faire encore? Quel chagrin me saisit? Quel tourment me dévore?
Carrément.
Je vous envoie. Errante et sans dessein. Cours dans ce palais.
Deux enfants.
Comme vous pouvez le voir. J'aime.
Dans la splendeur.
Oh, mes amis.
They'll stone you when you're walking on the floor. They'll
they stone you and then say they'll all brave. They'll stone you and you're sent down in your grave. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned.
Dans les comptes d'apothicaire, 20 ans c'est une somme de bonheur. Mais 20 ans sans mort à la guerre, de l'autre côté du champ d'honneur. Si je connais un temps de chien, certes, c'est bien le temps de mes 20 ans. Cependant je pleure sa perte, il est mort, c'était le bon temps. Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types. Dans ta petite mémoire de lièvre, Bécassine, il t'est souvenu de notre amour du coin des lèvres, amour nul et non avenu, amour d'un sou qui n'allait certes guère plus loin que le bout de son lit. Cependant, nous pleurons sa perte, il est mort, il est embelli. Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types. J'ai mis ma tenue la plus sombre et mon masque d'enterrement pour conduire au royaume des ombres un paquet de vieux ossements. La terre n'a jamais produit, certes, de canailles plus consommées. Cependant, nous pleurons sa perte, elle est morte, elle est embaumée. Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types.
Que suis-je donc et que sais-je qui vive en ce monde où vais-je? Trace le pas sur la neige que le vent ni d'un arpège. Et je tourne prise au piège de cet absurde manège. Le temps comme un sortilège me désenchante et m'abrège. Tant de cris dans le désert se perd de sable et poussière, toujours plane planétaire, l'ombre d'un doute dans l'air.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Musique.
Inouïe.
Caravana la maximum.
Chagueuse.
Je me fous du.
Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
laisse amasser votre sein doux pour le...
N'importe quoi. Alors, Radio Libertaire. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, autres formes de création curieuse. Alors, vous pouvez écouter sur 89.4 sur la bande FM, mais également sur Internet, partout dans le monde, à Damas par exemple, radio-libertaire.net. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Naïssam Djalal. Bonjour Naïssam.
Bonjour.
Et alors, je parlais de Damas parce que déjà, c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de parler de cette splendide ville. Et parce que tu es d'origine syrienne, je crois.
Mm-hmm.
Ouais, c'est ça. Et donc, on va un petit peu explorer toute une grande partie de ce que tu fais, de ton travail. Et on a commencé avec Healing Rituals. Pardon pour l'accent anglais. On a commencé avec Rituel du Vent. Alors, on en parlera plutôt vers la fin de l'émission de ce projet-là, puisqu'il y a un concert à venir très bientôt. Mais peut-être la première question, nous, on aime bien savoir le parcours, et tu sais, par rapport à la pédagogie, l'apprentissage de l'instrument, de la musique, quel a été ton parcours, ton apprentissage de la musique ? As-tu suivi, par exemple, une formation classique ?
Complètement. J'ai suivi une formation classique au conservatoire en flûte traversière, voilà, où j'ai appris à jouer de cet instrument, qui est un instrument de la tradition de la musique classique occidentale. Et voilà, j'ai fait un cursus, tout ce qu'il y a de plus classique, avec la classe d'orchestre, la classe de formation musicale, la classe d'analyse, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus classique pendant toutes ces années, donc de l'âge de 6 ans à l'âge de 18 ans. Et en fait, à 17 ans, j'ai découvert l'improvisation, et c'est là où, pour la première fois, j'ai vraiment eu l'impression de pouvoir m'exprimer grâce à la musique et grâce à cet instrument que j'avais appris à jouer pendant 12 ans. Mmh. Et où je me suis rendu compte que je pouvais dire en musique des choses que je pouvais pas dire avec les mots et qui me faisaient vraiment du bien.
Ouais. Mais alors, comment as-tu bifurqué, je sais pas si le mot est pertinent, de la musique classique vers l'improvisation, le jazz, on va dire, allez.
Alors, au départ, l'improvisation, c'est pas forcément du jazz. Il y a de l'improvisation dans, oui, toutes les cultures ancestrales, dans la musique classique indienne, dans la musique classique arabe, il y a de l'improvisation, voilà. Mais en fait, j'étais à un vernissage, et je jouais pour le vernissage de mon père, parce qu'il est artiste peintre. Mmh. Et en fait, il y avait un contrebassiste qui s'appelle Michel Touzeau, qui improvisait avec les œuvres, dans une sorte de performance un peu ludique, ouais, musico-ludique, on va dire. Et il est venu me voir après le vernissage pour me dire que j'avais un joli son et qu'il avait bien envie qu'on improvise ensemble. Ouais. Et moi, j'étais terrorisée parce qu'on m'avait jamais dit que j'avais le droit de jouer des choses qui n'étaient pas écrites et de dire des choses qui étaient dans mon cœur et qui n'étaient pas sur une partition. Et il m'a pas lâché, en fait, il a insisté, il m'a vraiment pas lâché jusqu'à ce que j'accepte, et on s'est mis dans un coin et on a joué, et c'était une révélation pour moi.
Ah bah super, ouais, t'as eu de la chance quelque part. Et alors, on a entendu dans un premier morceau que tu chantais également. Je voulais savoir si t'as eu une formation par rapport à ça, comment...
Pas du tout, j'ai pas de formation par rapport au chant. Mmh. J'ai eu vachement de mal à chanter,
ah oui,
à assumer ma voix. Parce que je pense, pour plein de raisons, parce que déjà quand tu chantes, t'es encore plus nu que quand tu joues d'un instrument derrière lequel quelque part tu peux un peu te cacher. Aussi parce que c'est une voix de femme, c'est une voix aiguë, et que j'avais du mal à assumer que j'avais cette voix-là. Il y a plein de raisons, en fait, pour lesquelles j'ai mis énormément de temps à accepter de chanter et à reconnaître le plaisir immense et le bien fou que ça me procure.
Ah oui.
Ah oui, oui. Et alors, quelles étaient les musiques que tu écoutais dans ton adolescence, tu sais, au moment où on se projette, peut-être musicien, musicienne?
Alors moi, je ne me projetais pas du tout musicienne.
Ah ouais.
Jusqu'à ce que je découvre l'improvisation, justement. Mais avant ça, je ne me voyais pas du tout devenir musicienne. Mmh. Mais j'ai tout écouté, hein, des Spice Girls à... Non, mais je te promets, j'écoutais les Spice Girls quand j'avais 13 ans.
Bah oui.
Comment il s'appelle, Ben Harper, en passant par Metallica, en passant par I Am, l'école du micro d'argent que j'écoutais en boucle, enfin... J'ai écouté plein de trucs hyper différents.
Et alors, est-ce que parmi ces plein de trucs différents, est-ce qu'il y avait du jazz?
Non.
Ah ouais, pas du tout.
J'aimais pas du tout le jazz.
C'est marrant.
Je trouvais ça trop naze, trop abstrait, ça me procurait aucun plaisir du tout, quoi.
Ah, c'est marrant, t'as la franchise de lire, parce que moi j'entends ça des plus jeunes de 30 ans, que pour qui le jazz c'est une horreur, quoi.
Mais parce qu'en fait, le jazz ça veut rien dire, enfin ouais, tu vois.
C'est vrai que ça...
Il y a le jazz afro-américain des années 40, ça n'a déjà plus rien à voir avec le jazz afro-américain des années 60,
ouais,
tu vois. Et ça a encore moins à voir avec le jazz des années 20... ou le jazz en France d'aujourd'hui, tu vois, ah ça oui, n'a rien à voir en fait. Donc le jazz, c'est vrai que ça veut un peu rien dire.
Oui, ça veut plus dire grand-chose, on va dire. Mais heureusement, dans
et sens. Pourquoi pas, en fait, parce que oui, en fait, de toute façon, les mots, quand ils veulent dire des choses, ils enferment et ils excluent. Ouais. Donc là, au moins, c'est un mot qui exclut rien parce qu'il veut plus rien dire. Donc très bien, enfin, je veux dire, il ouais, n'y a pas de galère.
Entièrement d'accord. Tu sais, mais... ouais, pardon. Ouais.
Mais encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des jazz, il y a certains jazz qui me font rien du tout, qui me laissent de marbre.
Ouais. Ah oui, je vois bien, ouais. Ah ouais. Alors en même temps, tu vois, dans l'émission, c'est rare qu'on dise... moi, je sais pas parler de styles musicaux, tu vois, par exemple. J'ai jamais rien compris, tu vois, dans le hard rock, moi j'appelle ça encore du hard rock, il y avait plein de trucs différents, tu vois, du green core, je sais pas quoi, du métal, j'ai jamais rien compris, puis je m'en fous, en fait. Et alors j'ai l'impression que toi t'aimes pas trop non plus les cases.
Non.
Ah ouais.
Ça m'intéresse pas.
Ben non. C'est pas passionnant. Alors, quelles ont été les rencontres importantes, réelles ou discographiques, quand même, qui t'ont fait changer, parce que on a beau dire ce qu'on dit là à l'instant, tu es quand même plutôt apparenté au milieu du jazz. Tu as reçu un machin, comment ça s'appelle, une victoire du jazz, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a orienté vers cette voie-là, en dehors de cette rencontre avec l'improvisation dont tu nous as parlé?
Mais alors moi, pour être très honnête et pour mettre tout le monde d'accord, moi j'ai pas la sensation de faire du jazz.
D'accord.
Déjà, okay, voilà. Ouais. Je suis dans la catégorie jazz et je me bats pour y être.
Ah oui, pourquoi?
Parce que en tant que fille d'immigrée, on dirait que je suis pas légitime pour y être. Donc, du coup, je suis obligée de me battre pour y être. Mais en vrai, je fais pas du jazz. Ouais, tu ouais, vois. Et je m'en fous en plus. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut bien, puisque ça rassure tout le monde et puisque le marché est tel qu'il est, et ben, il faut que je sois dans une case.
Donc, d'accord. Ouais.
Jazz, ça me va parce que c'est ce qu'il y a de plus ouvert. Et aussi, c'est une façon de dire, bah, non, en fait, le jazz, ça n'a pas toujours été une musique de blanc. Donc, ouais, moi, en tant que fille d'immigrée, j'ai aussi ma place dans le jazz et je vous emmerde. Donc, voilà. Mais, il y a ça. Après, moi, ce qui m'a vraiment... Là où j'ai eu une rencontre, une vraie rencontre avec ce qu'on appelle le jazz, en tout cas, qu'on reconnaît être du jazz, je ne sais pas par quel miracle, parce que finalement, ce n'est pas si différent de ce que je fais moi et qu'on me refuse le fait que je fasse du jazz. Mais c'est... en fait, Coltrane, c'est un afro-américain saxophoniste incroyable, d'une spiritualité immense, qui a eu des expériences mystiques très, très, très profondes. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui est tombé dans l'héros, qui a eu une révélation mystique où il a réussi à se sortir de ça pour se mettre au service du divin. Et c'est hyper beau. Enfin, il a, lui et d'autres, inventé ce qu'on appelle le free jazz, donc le jazz libre, à une époque où les Afro-Américains, il y avait encore la ségrégation, il y avait toutes les luttes pour l'obtention d'une égalité de droits. Et je trouve que c'est une époque qui est incroyable, parce qu'en fait, à cette époque-là, donc les Afro-Américains étaient plus esclaves Et en même temps, ils n'étaient pas libres non plus. Ils devaient faire face à des discriminations incroyables. Ils étaient plus esclaves, mais ils continuaient, comme aujourd'hui encore, à porter le nom de leurs anciens maîtres, le nom de famille. Il y en a plein pour qui sortir de ça, ça a été aussi s'intéresser aux musiques extra-occidentales. Et donc, comme une forme de retour aux sources, il y en a plein qui se sont inspirés des musiques d'Afrique, où ils avaient l'impression de retrouver leurs racines. Et puis aussi, Coltrane, par exemple, il s'est intéressé même beaucoup plus loin à des musiques extra-occidentales, et notamment d'Asie, on va dire. La musique indienne, c'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré. Énormément. Et voilà, il y a plein d'influences dans sa musique. Et donc, la première fois où on m'a dit, tiens, voilà, j'étais à Bamako, j'étais en tournée avec un groupe de funk qui s'appelle Taras Bulba, qui est un groupe amateur qui sévit à Montreuil depuis trop longtemps. J'étais avec eux au Mali, et j'ai un pote qui m'a dit, tiens, toi qui aimes pas le jazz, écoute ça. Et il me met dans un casque sur la tête, il me met Olé de John Coltrane. Ouais. Par la suite, j'ai découvert que Olé de John Coltrane n'est pas un morceau de John Coltrane, c'est qu'en fait, il a repris un thème de la tradition flamenca qui s'appelle El Bito, ouais, et qu'il a revisité en free jazz modal complètement fou, complètement sublime. Le morceau, il dure 20 minutes, c'est incroyable. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le jazz, en fait.
Ah ouais, okay.
Je suis rentrée dans le jazz par le biais du flamenco, tu vois. Truc de ouf, quoi.
Bah oui, ouais. Et alors, j'ai lu dans ta bio, tu sais, qu'il y a sur ton site, que tu es allé étudier la musique arabe à Damas. Qu'est-ce qui a motivé cette envie d'aller là-bas, en fait ?
J'ai été à Damas parce que, en fait, si tu veux, dans ma vie, souvent, la musique, elle me sert d'excuse pour faire des choses.
Ah bah oui.
Voilà. Régler des trucs aussi. Et c'est vrai que quand t'es fils ou fille d'immigrés en France, c'est pas évident, en fait, de trouver ta place, de savoir qui t'es. Déjà que c'est pas facile de savoir qui on est,
oui,
quand on est au bon endroit, entre guillemets. Mais quand, en plus, on est considéré comme l'autre, quand, en plus, on nous renvoie toujours cette altérité à la gueule, et ben, finalement, c'est encore plus dur. Et donc, c'est vrai que j'ai été à Damas pour plein de raisons. À la fois musicale, à la fois identitaire, existentielle, voilà, des questions de base où je me disais, ben, puisque je suis arabe et que tout le monde me traite comme telle, et que je porte dans ma chair la marque de mon étrangeté, et ben, au moins savoir ce que ça veut dire,
ouais,
tout simplement.
Ouais, ouais. Ah bah ouais. Et alors, tu as étudié le, je sais pas comment on dit, le nai.
Le nai, ouais.
Le nai. Mmh. Ouais. Et ben, je sais pas ce que c'est, en fait.
Ah, le nai, c'est, bah, en fait, là, dans le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, le rituel du vent,
ouais,
je joue la flûte traversière, je chante et je joue le nai. Et le nai, c'est une flûte oblique en roseau, qui est la flûte traditionnelle qui existe dans tous les pays arabes. Mmh. Et il y a trois nai qui existent, trois types de nai. Il y a le nai arabe, le nai perse et le nai turc. Et chaque nai a sa façon de jouer, à son ouais, son,
ouais,
en fonction des cultures, en fonction des techniques d'embouchure aussi. Et donc c'est une flûte en roseau, c'est juste un roseau. En tout cas pour le nai arabe, c'est juste un roseau avec sept trous. Et c'est un instrument hyper primitif, hyper dur à jouer,
ouais,
et trop beau.
Ah bah super, ouais. Et alors après tu as été au Caire, je crois, hein.
Ouais, je suis pas resté longtemps en Syrie.
D'accord, ouais. Et as-tu des artistes moyen-orientaux, arabes, qui t'ont inspiré plus que d'autres?
Alors oui, il y a des artistes qui m'ont inspiré discographiquement, tu veux dire, ouais, d'enregistrement, oui.
Oui, oui.
Il y a bien sûr des artistes arabes qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a Fayrouz, qui est une des grandes, grandes voix de la chanson arabe,
oui,
classique, qui est libanaise. Il y a évidemment Oum Kalsoum, il y a Mohamed Abdel Wahab, il y a tous les grands noms de la musique classique arabe. Il y a aussi toutes les Koudoud Halabiya, donc la musique vraiment populaire d'Alep, qui est une musique à la fois populaire et très, très, très empreinte de soufisme, avec des gens comme Adib Dayer, avec des gens comme Sabah Fakhri. Et il y a un chanteur, entre gros guillemets, parce qu'on n'appelle pas ça un chanteur dans la tradition arabe, on appelle ça un qari, c'est-à-dire un lecteur, qui s'appelle Cheikh Mohamed Ramadan. En fait, il y a deux lecteurs qui m'ont bouleversée. Donc, lecteurs, évidemment, ils sont des lecteurs du Coran. Ils chantent pas. On n'a pas de mots pour dire ça en français, on n'a que le mot chanter. Ils chantent le Coran. Donc, ce sont des lecteurs du Coran, donc ils chantent le Coran sans aucun accompagnement musical.
Ouais.
C'est complètement a cappella. Et donc, il y a Cheikh Mohamed Omran et Cheikh Mohamed Rifat. Et c'est des qurra qui m'ont vraiment bouleversée parce qu'ils ont une façon de faire entendre le divin dans le silence qui est absolument sublime, qui est incroyable. C'est incroyable. C'est une expérience incroyable d'écouter ces gens-là. Moi, la première fois que j'ai écouté, j'ai cru que j'allais faire un AVC en fait dans le silence. Le silence était tellement puissant, tellement long, tellement habité qu'il devenait insoutenable.
Ah oui.
Un truc de ouf.
On reparlera du silence pour à propos de Healing Rituals, je pense, hein, ouais. Tout à l'heure. Mais j'avais une dernière question avant d'écouter un morceau. Mais je pense que tu y as répondu. Je voulais savoir quelles ont été tes premières expériences en tant qu'artiste professionnel.
Avec Taras Bulba, c'était pas pro parce qu'on était amateur.
Ah d'accord. Ouais.
En fait, personne n'est payé. C'est une fanfare où les gens sont pas payés. C'est amateur. Mmh. Mais mes premières expériences professionnelles, c'était dans une crêperie à Nation où je chantais de la bossa nova et où j'étais payé au black quand j'avais 17 ans. Je faisais ça le dimanche, ça me faisait de l'argent de poche, quoi.
Ah ouais, d'accord. Mais alors après, sinon, quand t'es devenu...
Après, ça a été vraiment au Caire. Où là, j'ai vraiment gagné ma vie. La première fois où j'ai joué en public au Caire, c'était avec Fathi Salama, qui est un immense musicien pour qui j'ai énormément de respect, à la fois musical et humain. C'est un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a sauvé même à des moments dans ma vie. Qui a gagné les Grammy Awards pour l'album Égypte de Youssou N'Dour. Et qui m'a... propulsé vraiment devant de la scène en Égypte quand je suis arrivée au Caire, et avec qui j'ai joué à l'Opéra du Caire et dans plein d'endroits, et qui m'a... Enfin, c'était quelqu'un qui a compté pour moi.
Eh ben, on va parler de Rhythm of Resistance, mais avant on va écouter Samaï al-Andalus, peut-être tu peux le dire avec le bon accent.
Samaï al-Andalus, ouais.
Parce que autant massacrer l'anglais, ça me dérange pas, mais les autres langues, ça m'ennuie.
Oh,
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec Naïssam Djalal. Superbe morceau, un superbe chorus, hein, on en parlait.
Ouais, j'adore le chorus de Mehdi.
Ah ouais, tu m'as dit que tu ne l'avais pas écouté depuis longtemps.
Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on joue cette musique hein, régulièrement. Bah oui, ouais. Mais les chorus, les parties improvisées, elles changent à chaque
bah
fois.
Bien sûr, ouais.
Et c'est vrai que ce qui est beau, c'est quand tu fais une improvisation qui défonce et qui est enregistrée, parce que du coup, tu peux la réécouter. Bah ouais. Et donc, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté ce chorus de Mehdi qui est vraiment trop, trop beau. Quoi.
Bon, bah alors, on va parler du groupe Rhythm of Resistance. Resistance. En 2021... est sorti le troisième album Un autre monde, donc c'est un extrait dont, qu'on vient d'écouter. Mais peut-être il faut parler du groupe. Comment s'est créé le groupe? Quand s'est-il créé et comment?
Ouais, en fait, Rhythm of Resistance, c'est un groupe que j'ai fondé en 2011.
Oui.
Par hasard, c'est tombé au même moment que les révolutions arabes.
Ah voilà, ouais.
Ça faisait des années en fait que j'écrivais de la musique, que j'avais de la musique qui était là sur du papier et qui attendait de prendre vie, et que par ailleurs j'allais à plein de jams, dans plein de squats, et que je rencontrais plein de super musiciens avec qui j'avais envie de faire de la musique. Et à un moment je me suis lancée, parce que c'est pas évident aussi de dire à des musiciens ouais, viens, crois en ma musique, investis-toi dans mon projet, joue avec moi ma musique, enfin tu vois, c'est quand même ça, ouais. C'est un délire quand même, tu vois. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que ces musiciens-là, ils ont eu envie de croire dans cette, enfin, ils ont cru en cette musique, et puis ils ont envie de s'investir et de passer du temps avec moi, et on a grandi ensemble, parce que finalement, donc Mehdi Shaib, là, qu'on vient d'entendre au saxophone, ouais. C'est un ami de très longue date, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans Taras Bulba quand j'avais 17 ans, donc ça fait maintenant, je vais en avoir 39, ça fait 22 ans qu'on joue ensemble, tu vois.
Ah oui.
Donc c'est pas une collaboration, tu vois, comme ça.
Ouais.
C'est un vrai truc, c'est un vrai compagnon d'âge, c'est ma section, quoi, c'est ma section, y a pas moyen, quoi. Donc il y a eu Mehdi, il était ok, il avait envie de jouer ma musique, c'était hyper hyper classe. Il y a eu Karsten Hochapfel qui est un musicien allemand.
Ah oui, bah, on l'a reçu ici. Hein.
Qui vit en France depuis des années, ouais, et qui aussi super, était ouais. Super. Parce que si tu veux, au début on jouait pas au Café de la Danse, on jouait pas partout dans le monde, on jouait dans des caves.
Ouais.
On n'était pas payé, on était payé au chapeau, on était payé deux bières, la troisième, il fallait qu'on la raque. Enfin, tu vois, au départ, oui. Demander à des musiciens de jouer ma musique, je pouvais pas leur dire, bah, en fait, frère, tu vas être payé. Enfin, oui. Là, t'étais payé au lance-pierre de ouf, quoi. Parfois, on faisait des concerts, on était payé 20 balles.
Ouais, c'est bien. Ouais.
Enfin, c'était hardcore. C'était ouais, hardcore les conditions dans lesquelles on.
Bah, ça l'est toujours. Hein,
Oui, mais les conditions dans lesquelles on a commencé ce groupe, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils me connaissent parce que j'ai gagné les Victoires du Jazz, que j'ai une reconnaissance dans le milieu du jazz et tout. Ils s'imaginent pas que je suis passée par jouer dans des caves, m'embrouiller avec des patrons de bar qui nous exploitaient, qui nous maltraitaient. Clair. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment où t'es là, où tu vas au front, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Donc il y a eu toutes ces années-là, et à l'époque, c'était pas exactement la même équipe. Donc, il y avait Mehdi, il y avait Karsten, oui. Qui sont toujours là et qui sont là depuis donc, la création du groupe en 2011. Et puis, il y avait Francesco Pastacaldi, qui est un.
Ben oui.
Tu connais.
Bon, très bien.
Voilà. Francesco, c'était le premier batteur du quintet.
Je crois qu'il vient dans l'émission avant même la création du groupe Rhythm of Resistance. Il venait à l'époque pour Jean-Louis.
Avec Emeric.
Emeric,
super. Et Joachim.
Joachim.
Trop bien. Donc, Francesco, ouais, ça a été le premier batteur du quintet. Et à l'époque, il y avait aussi un bassiste qui s'appelait Mathias Sandai, qui était hongrois.
Ah oui.
Donc c'était un quintet assez cosmopolite en fait, parce qu'il y avait personne qui avait la même nationalité, tout c'était vraiment classe. Et puis Francesco et Mathias ont décidé de quitter le groupe l'un après l'autre, et du coup j'ai demandé à Arnaud Dolmen, qui est un batteur guadeloupéen incroyablement talentueux, hein, vraiment super musicien, qui est rentré dans le groupe en 2015 lui. Donc tu vois, ça fait quand même pas, c'était pas hier non plus. Et Damien Varaillon, lui, qui est rentré en 2019.
Ah oui.
Dans le groupe.
Ah oui.
Voilà.
Ah bah c'était une question, tu réponds à la question que je voulais te poser, parce que moi j'avais vu avec Francesco, je vous avais vu au parc de la Butte Rouge. Je sais pas si tu vois, par les quartiers d'été.
Non, c'était plus Francesco déjà.
Ah, je suis sûr que c'était Francesco.
Non.
Oh, oh oui, il faisait remplacement. Mais effectivement, j'avais noté 2016.
Non, en 2016, il avait déjà quitté le groupe.
Ah, je l'ai vu de mes yeux. Attends, je le reconnais. Il faisait pas remplacement, il n'y a pas eu remplacement. Il n'est pas revenu pour une date ou...
Non, je crois pas. Tu nous as vus avant. Francesco, il a quitté le groupe en 2015.
Je vous ai vu au parc de la Butte Rouge.
Non, t'as dû nous voir. Ah, t'as dû nous voir deux fois, tu mélanges.
Non, on se disputera en antenne si tu veux.
Ça marche. Ou pas.
Bah oui, on verra. Voilà, donc oui, je voulais te parler du line-up qui a changé. Alors voilà, la question c'est quelle est la particularité, comme tu as plusieurs formations, quelle est la particularité de cette. De ce quintet, quelles esthétiques, quelles idées lui réserves-tu à Rhythm of Resistance? Pourquoi tel morceau tu le composes pour ce groupe et quelles sont tes idées?
Ouais, c'est une bonne question. Alors en fait, au début, je me posais pas trop la question. En fait, tout ce que je composais, ça allait pour ce groupe parce que j'en avais pas d'autres. Donc voilà, les premiers albums, c'était un peu comme ça. Aussi, ce qui est particulier, c'est que dans les premiers albums, moi, entre 2008, on va dire, et 2015, justement, donc toute la période où j'écrivais de la musique avant que le groupe soit né, et jusqu'au premier album et au deuxième album, je vivais pas que en France, je vivais entre Paris et Beyrouth. Ouais. Et donc, j'étais très, encore plus qu'aujourd'hui peut-être, touchée par les questions sociales, et politique arabe, parce que je vivais à cheval entre la France et le Liban, et donc j'étais particulièrement je le suis toujours, hein, mais c'est vrai que je m'intéressais pas du tout aux questions françaises à l'époque, parce que justement j'étais jamais là, et quand j'étais là, mon esprit était ailleurs, tu vois. Donc c'est vrai que c'est des albums où les deux premiers albums, en tout cas Usloub Hayati et Al-Mout Wal Mazalla, qui sont très très marqués par les réalités des peuples arabes des premières années de la révolution, en fait, vraiment. Donc le premier album Usloub Hayati, où je parle de Beyrouth, où je parle de la guerre civile, le deuxième album Al-Mout Wal Mazalla, qui est un album en hommage aux martyrs de la révolution syrienne et à la lutte et au courage immense et incroyable de ce peuple, parce que je rappelle quand même que les Syriens sont descendus dans les rues avec des fleurs et avec des chants, et qu'ils ont dit Al-Mout Wal Mazalla comme un des slogans emblématiques de la révolution. Et Al-Mout Wal Mazalla, ça veut dire la mort plutôt que l'humiliation. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui étaient prêts à braver la mort pour vivre digne. Et ça, aujourd'hui, moi, je connais pas beaucoup de gens, moi y compris, qui sont prêts à mourir pour être digne. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc de ouf. Ouais. Quand t'as des centaines de milliers de personnes qui scandent ce slogan-là ensemble et qui sont prêts parce que de fait, ils sont en train de braver les balles à l'époque des snipers, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'armée libre et que du coup, les snipers pouvaient encore accéder au quartier pour assassiner les gens dans les manifestations. Moi, je trouve ça assez incroyable, en fait, vraiment. Je trouve ça grandiose, je trouve ça héroïque. Je trouve ça hyper beau, et je trouve ça d'autant plus désespérant que cette révolution orpheline a été abandonnée de la sorte par tous, par tous, même par ce qu'on appelle entre guillemets la gauche, d'abord par la gauche même. D'abord par la gauche, parce que on a entendu toutes sortes de conneries sur les complots contre Bachar el-Assad à gauche. Hein.
Ouais.
Moi, je comptais pas sur la droite, hein, forcément.
Non.
Je comptais sur la gauche, et on s'est bien fait planter. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça a été une période assez compliquée. Et le troisième album, c'est vrai que donc après 2017, j'ai commencé à avoir d'autres groupes où je pouvais explorer d'autres dimensions de la musique. Et donc, j'ai gardé le quintet sur un travail à la fois, on va dire, d'un point de vue du sens, très, très porté sur mes considérations, mes considérations politiques, hein, clairement, ou sociales, ou voilà, mes questionnements, mes angoisses aussi, parce qu'on vit une époque qui est quand même pas ouf. Et esthétiquement, ouais, sur un répertoire qui est très marqué par des musiques impaires, par des mesures impaires, un travail sur les polyrythmies. Il y a un gros travail justement là-dessus où on a grandi ensemble, en fait. C'est ça qui est beau dans ce groupe, c'est que c'est un compagnonnage hyper ancien et hyper familial presque.
Alors j'ai plusieurs questions par rapport à ça. comment, alors non, moi j'aime bien savoir ça, comment composes-tu? Est-ce que tu es devant ta feuille blanche, ta partition, ou est-ce que tu composes en jouant? Et écris-tu d'ailleurs des partitions?
Je compose en jouant et j'écris des partitions parce que c'est plus facile,
ouais,
pour transmettre et pour monter les trucs. Donc d'abord je compose en jouant. Donc, et une fois que j'ai composé...
En jouant, en improvisant ou...
En jouant, non, non. Alors, bon, improvisant, non, pas vraiment. En fait, je cherche. Hein. Ouais. C'est-à-dire que soit je suis au piano, soit je suis à la flûte, soit je suis à la voix.
Ouais.
Et je cherche. Donc, je joue et je cherche quelque chose.
Est-ce qu'il t'arrive de marcher dans la rue, d'avoir une idée?
Oui.
Ça va. Ouais.
Carrément.
Ouais.
Carrément.
Et alors, oui, l'autre question, c'était comment transmets-tu aux musiciens et comment travailles-tu aussi avec les musiciens? Y a-t-il une part de création collective?
Alors, au début, il y en avait plus qu'après.
Ouais.
Dans les premiers albums du quintet, il y avait vraiment un travail collectif. Et après, il s'est passé un truc un peu bizarre, on va dire. C'est que pour des raisons, je pense, qui sont liées à notre éducation profondément marquée par le patriarcat, un des musiciens du groupe a mal vécu le fait que... Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est moi qui compose la musique.
Ouais.
J'arrive avec une musique qui est écrite.
Ouais.
Les thèmes, ils sont écrits, les lignes de basse, elles sont écrites. Et ce qui se passait, c'est qu'avant, les arrangements, ils étaient collectifs. C'est-à-dire qu'on allait se dire, ah bah tiens, on va le monter plutôt comme ça, ou ah bah tiens, on va le monter plutôt comme ça, on va aller de là à là de telle façon, voilà. Mais les compositions, c'était les miennes. Et il y avait un des membres du groupe, dont je ne citerai pas le nom, qui a mal vécu le fait que je reçoive une certaine reconnaissance du public. Alors que parce que bah forcément c'est mon groupe, c'est mes compos.
Ouais.
Et parce que je pense une femme, ça lui allait pas, en fait ça le faisait chier grave. Et donc c'est parti vraiment loin où il a remis en question le fait que c'était ma musique, où il a essayé de me descendre, où il a essayé de m'humilier, de me dire que c'était pas, que je savais pas écrire de la musique, que j'étais naze, enfin voilà. Et du coup, j'ai décidé que ben c'était fini les arrangements collectifs et que non seulement je savais écrire de la musique, mais qu'en plus j'étais capable de l'arranger toute seule.
Très bien.
Et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que là sur le dernier album, c'est moi qui ai fait tous les arrangements, même les arrangements pour l'orchestre symphonique, où on m'a dit attention Naïssam, écrire pour un orchestre symphonique, est-ce que t'es sûre d'être capable de le faire et tout. Et je leur ai dit ouais, en fait je suis capable de le faire et je vais le faire et vous allez voir et ça va être hyper beau et voilà.
Bah on va écouter un extrait, alors non pas de l'orchestre symphonique, on parlera du dernier album juste après, mais peut-être t'avais un texte à dire ou...
Il y a un morceau qui s'appelle D'ailleurs nous sommes d'ici,
voilà, c'est ça.
Qui est, où il y a un texte en introduction du morceau.
D'accord, donc on l'entend dans le... D'accord. Bah on écoute.
Assoiffé d'amour et de reconnaissance, le feu de l'impatience consume nos cœurs. Chère France, terre de notre naissance, comment te dire notre colère, notre douleur? Méprisés, alors que nous sommes fiers. Divisés, alors que nous sommes frères. Incandescent dans l'immensité de notre rage, qui nous porte, nous nourrit et nous brûle. L'amertume de l'histoire de tes autres habite nos chairs. Et pourtant, dans notre détresse, nous rêvons que tu es notre mère, que pleine de tendresse, tu nous accueilles à bras ouverts, comme des enfants longtemps désirés. Car d'ailleurs, nous sommes d'ici. Graines de là-bas, nous sommes tes arbres d'aujourd'hui. Nous avons tellement besoin d'être aimés. Regarde comme nous sommes beaux.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Nous avons eu un échange passionnant avec Naïssam. Merci à toi des précisions que tu m'as données. En 2021, donc, est sorti cet album Un autre monde. Et bah, peut-être, tout simplement, peux-tu nous parler de ce disque, de sa genèse, et qu'est-ce qui a inspiré sa composition, tes compositions?
Bah, y a eu plein de choses. En fait, c'est un album où je parle de plusieurs réalité, voilà, politique, sociale. Il y a toute une partie où je parle du racisme, de la xénophobie, du fascisme qui est de plus en plus en roue libre, hein, on va dire. Ils se croient tout permis, quoi.
Ouais.
C'est un truc de ouf. Ouais. Donc voilà, je parle de ça. Je parle. Donc il y a ce morceau là qu'on vient d'écouter. D'ailleurs, nous sommes d'ici, où je m'adresse un peu à la France en tant que fille d'immigrée. Il y a Samaria l'Andalous, où je parle de cette période incroyable de l'Andalousie arabe, quand des gens de plein de religions, plein de couleurs, plein d'origines, plein de cultures, plein de langues différentes ont vécu ensemble et ont donné naissance à une civilisation incroyable dont on profite encore d'un point de vue à la fois philosophique et scientifique. Y a une partie qui parle du capitalisme, très clairement, Ah oui, j'oubliais, dans la partie justement qui parle du fascisme, il y a aussi un morceau qui s'appelle L'hymne à la noix.
Ah oui, voilà. J'ai pas compris ça, c'est quoi ?
L'hymne à la noix ?
Ouais.
Bah alors en fait, c'est un jeu de mots parce qu'il y a l'hymne à la joie.
Oui, bah oui.
Et l'hymne à la noix, bah c'est l'hymne à la noix en fait, les hymnes c'est naze.
Ah d'accord,
fait. C'est hyper nationaliste, voilà. Donc c'est un peu pour tourner en dérision les petits kiffs que se font les gens quand ils chantent la Marseillaise le dimanche matin et qui sont super contents. Bah moi je trouve ça... Voilà. Mmh. Donc c'était un petit clin d'œil. Il y a aussi une partie vraiment anticapitaliste, comme dans Un monde neuf, où j'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblerait la fin du capitalisme et l'émergence d'un monde différent et on va dire plus juste. Voilà. Et puis il y a toute une partie qui parle d'amour. Parce que je pense que ça peut paraître niais, comme ça. Mais en fait, l'amour, je pense que c'est une arme hyper puissante. Et révolutionnaire. Voilà, donc je parle de ça. Et puis, il y a toute une partie, enfin, il y a en tout cas une pièce vraiment qui est hyper importante pour moi, qui s'appelle Bouleria Sarkhat al-Ard, qui signifie le cri de la terre. Et où je parle de cet enjeu incroyable et vertigineux dans lequel on se trouve, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec les enjeux climatiques et de comment on... Ben c'est aussi en lien avec le capitalisme. Comment est-ce qu'on réinvente notre rapport au vivant ? Comment est-ce qu'on réinvente notre rapport à l'autre aussi ? Est-ce que la vie, est-ce que l'autre, est-ce que la justice, est-ce que même juste la survie doit être... soumise aux impératifs marchands qui profitent à certains, ou bien est-ce qu'on est capable de repenser notre rapport au vivant et à l'autre aussi, parce qu'en fait tu sais, quand on parle des questions de diversité,
ouais.
Alors c'est un mot qui est hyper à la mode, diversité, pour parler des autres, quoi, de ceux qui sont différents en France, donc c'est les Noirs, les Arabes, les Chinois, quand on parle des questions de diversité culturelle, on se retrouve à parler des mêmes, avec les mêmes mots, avec le même lexique que quand on parle de biodiversité.
Ah oui.
En fait, on se retrouve à parler des mêmes enjeux. La disparition de certaines cultures,
ah oui.
Comme on parle de disparition de certaines espèces, de l'uniformisation de l'imaginaire comme on parle de l'uniformisation des paysages et de la déforestation par exemple et de la reforestation en pin en pin Douglas, tu vois. Et en fait, je trouve ça hyper dingue que le capitalisme, avec tout ce qu'il engendre de mondialisation et d'homogénéisation du monde, provoque la même chose à la fois pour ce qu'on pourrait appeler un écosystème humain et culturel que pour un écosystème biologique et ça, c'est vraiment des questions que je me suis posées beaucoup. Donc j'ai fait cet album-là en parlant de toutes ces questions-là.
Eh oui, un autre monde.
Un autre monde.
Eh ben, on le souhaite. On souhaite son arrivée promptement, hein, parce que moi, tu sais que j'ai l'habitude de dire que nous vivons une parenthèse, en fait. Hein, le capitalisme, pour moi, est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité, dont on rira, j'espère, le plus rapidement possible.
Si l'humanité survit, ouais.
Voilà. Ah oui, oui, t'as raison. Ouais. Et ouais. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'envie? Alors, il faut peut-être expliquer, il y a deux disques, deux CD, je pense.
Oui, il y a deux albums. Ouais,
deux albums CD. Dans le disque, deux parties, on va dire. Qu'est-ce qui a motivé l'envie d'être accompagné par un orchestre symphonique sur la seconde partie, sur le deuxième disque, qui reprend en plus les morceaux studio?
Ouais, en fait, alors au départ, ce n'était pas une envie. En fait, on m'a proposé de travailler avec un orchestre symphonique. Et on m'a demandé d'écrire un répertoire symphonique. Et moi, je n'avais pas envie de passer 3 ans de ma vie à écrire un répertoire qui allait être joué 10 fois. Parce que faire venir un orchestre symphonique, c'est une galère. Et que du coup, voilà, ça ne m'intéressait pas. Et en plus, c'était un moment où j'avais envie d'écrire un nouveau répertoire pour le quintet, parce que ça faisait des années qu'on jouait les mêmes morceaux et que j'avais envie de renouveler le répertoire. Donc, j'ai proposé d'écrire un double répertoire. Et que les mêmes morceaux puissent être joués à la fois en quintet seul et à la fois en quintet accompagné de l'orchestre symphonique. Et ça a été la grosse difficulté de l'écriture de ce répertoire, c'est que quand on joue en quintette, on n'est pas l'impression qu'il manque quelque chose, et que quand on joue à l'orchestre symphonique, on n'est pas l'impression que ce soit trop fouillis et trop fourni.
C'est-à-dire que la proposition de l'orchestre symphonique était antérieure à l'écriture?
Ouais.
Ah ouais, okay, d'accord.
Voilà. Ouais. J'ai écrit les morceaux en parallèle. Les deux versions, je les ai écrites parallèlement. Parfois, la version symphonique venait nourrir l'écriture du quintet, et parfois, au contraire, l'écriture du quintet venait nourrir l'orchestre symphonique. Donc, c'est un répertoire que j'ai écrit vraiment en parallèle.
Ouais. Alors, t'as pas dit pourquoi, qu'est-ce qui a motivé c'est une rencontre, l'histoire avec l'orchestre symphonique?
Oui, en fait, alors, c'est hyper, hyper basique, hein, hyper prosaïque. En fait, j'étais en résidence à l'Estran à Guidel, qui est un théâtre dans le Morbihan.
Oui.
Et le directeur du théâtre m'a dit, voilà, j'aimerais que tu écrives pour un grand ensemble. Je lui ai dit, grand comment? Il m'a dit, comme un symphonique. Et j'aimerais qu'on fasse une création avec l'Orchestre National de Bretagne.
Ah ouais, carrément. Ouais.
Et donc je lui ai dit, bah ouais, trop bien. Moi, toute seule, j'y aurais pas pensé. Parce que, tout simplement, je sais que j'aurai jamais les moyens d'avoir un orchestre symphonique. Donc, je ne vais pas me lancer dans l'écriture d'un truc qui ne sera jamais joué. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Et ben là, c'était l'occasion. Et voilà.
Ah bah super.
C'est fait.
Génial. Ouais. Donc, du coup, est-ce qu'il y a eu des représentations?
Il y en a eu 20.
Ah, c'est pas mal.
Il y en a eu 20. C'est hyper rare. On est la création de l'Orchestre National de Bretagne qui a le plus tourné. Et j'avais demandé à Zaria Ziwani, qui est une chef d'orchestre franco-algérienne, de diriger cette symphonie. Et elle a eu envie de le remonter ensuite avec son orchestre à elle. Oui. Donc on a fait 10 dates avec l'Orchestre National de Bretagne et 10 dates avec l'Orchestre Divertimento, qui est l'orchestre de Zaria Ziwani.
Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Et alors, peut-être parlons du disque, comment se présente sous sa forme matérielle? Est-ce qu'il y a un double vinyle, par exemple? Comment ça se passe?
Non, il n'y a pas de double vinyle, il y a un double CD.
Double CD, donc avec les deux versions, et il y a un vinyle.
Il y a un vinyle. Sur le vinyle, j'ai mis que les versions symphoniques.
Ah ok, d'accord.
Donc il n'y a que en fait, le CD2 qui est sur le vinyle.
Ah ok, je pensais le contraire, d'accord.
Ouais. Non, parce que en fait, tout simplement, donc sur un vinyle, tu ne peux pas faire entrer plus que 40 minutes max de musique.
Ouais.
Et qu'en fait, là, il y avait 40 minutes sur le CD2 et plus de 50 minutes sur le CD1. Ouais. Donc en fait, ça me faisait un triple vinyle, c'était ingérable. Bah, oui. Donc voilà.
Et donc, il y a des versions dématérialisées, j'imagine.
Oui, oui, bien sûr.
Est-ce que tu as une idée sur des trucs à dire sur ça, sur la dématérialisation? Tu n'es pas contre, tu n'es pas pour?
Alors, en fait...
Et aussi, es-tu attaché au matériel, à l'objet, je dirais?
Bah, moi, l'objet, je le soigne, vraiment. J'ai des albums qui sont, je trouve, très beaux. Je me prends vraiment la tête pour faire des beaux livrets, mettre des belles illustrations, enfin faire un truc qui a vraiment du sens. Je suis pas contre la dématérialisation quand elle rend service, mais je suis contre la dématérialisation quand elle remplace l'humain. Voilà. Et ça, c'est, je pense, un vrai problème qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est que la machine n'est pas là pour aider l'humain, elle est là pour le mettre à la poubelle. Et ça, c'est, je trouve, assez violent. Après, concernant la musique, concrètement, même d'un point de vue, même, on va dire, économique, hein, basique, un album qui est vendu 15 euros, moi, en tant qu'artiste, je vais toucher 8% de ce que le producteur gagne. Donc, il faut savoir qu'un album qui est vendu 15 euros, le producteur, il touche dessus 5,80 euros, on va dire. Ouais. Ou un peu plus, peut-être. Le distributeur, il prend une marge. Et ensuite, le magasin prend une marge aussi. Et moi, je vais toucher, en tant qu'artiste, 8% de ce que le producteur touche.
Ouais, des 5 euros. Ouais.
Voilà. Ouais. Donc, ça fait des clopinettes. Ouais. D'accord ? N'empêche que ces clopinettes-là, elles me permettent de vivre et n'empêche aussi que les 5,80 euros, bah, ça aide le producteur à faire des nouveaux disques.
Oui.
Donc en fait, c'est de l'argent qui est réinvesti ensuite dans la création.
Ouais.
Voilà. Un morceau en streaming qui est écouté, c'est 0,0009 centimes d'euros qui sont reversés au producteur.
Ah,
et
ouais.
Moi, je touche 8% de ça.
Ah, oui, d'accord.
Tu vois ?
Ah, oui.
Donc là, c'est carrément, en fait, c'est-à-dire que si les gens cessent d'acheter des disques, si les gens cessent de soutenir la création, on est mort.
Ah oui, d'accord.
Donc, disons que la dématérialisation, c'est chouette pour que tout le monde ait un accès un peu démocratisé, tu vois, à la musique et que tout le monde, comme à l'époque où on téléchargeait nos trucs sur des torrents et on piratait la musique et tout, c'est cool parce qu'en fait, ça permet aux gens de découvrir des choses et de s'enrichir. Mais quand t'as un peu de sous et que tu fais le choix d'acheter un disque, et ben en fait, là, t'es en train de faire un vrai acte.
Ouais,
voilà.
D'accord. Ouais,
c'est
ouais.
Pas juste un acte de consommateur, c'est un acte aussi. Bah, quelque part politique, parce qu'en fait, notre société, si on décide que la seule chose qui mérite en fait, d'être rémunérée et la seule chose pour laquelle les gens peuvent bosser, c'est bosser dans des banques, accorder des crédits et vendre des carottes, et ben, finalement, il n'y aura plus de culture, il n'y aura plus d'imaginaire, et puis voilà, et puis ça sera vraiment la merde. Donc voilà, je ne suis pas contre. Mais je ne suis pas pour que ça soit la seule option, quoi.
Bon, voilà, ouais, très bien, très bien. Alors, tu sais que nous, je suis d'une génération, plusieurs générations antérieures à la tienne. Nous, on enregistrait avec les cassettes, on enregistrait la radio, tu sais.
Ouais.
C'est encore autre chose. Alors, on va écouter un autre morceau, mais je vais te laisser dire le nom, parce que...
De l'album ?
Ouais.
Donc, c'est l'album « Omel Agaib ».
D'accord. Eh bien, on en parle après.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec notre invité aujourd'hui, Naïssam Djalal. Et alors, peut-être Naïssam, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'on vient d'écouter?
Oui, on a écouté une composition que j'ai écrite pour Abdou Darir. Abdou Darir, c'était un immense violoniste, paix à son âme, il est mort du Covid il y a quelques années. C'était un immense violoniste qui a joué avec toutes les plus grandes figures de la musique classique arabe égyptienne, de Oum Kalthoum à Mohamed Abdel Wahab à Cheikh Mohamed Omran, dont je parlais tout à l'heure, le Qari en question, là, le lecteur. Il a joué avec tout plein de gens incroyables. Et j'ai eu la chance et l'honneur et la chance immense d'étudier à ses côtés au Caire quand je vivais là-bas. Et c'est quelqu'un d'incroyablement généreux. Pendant des mois et pendant même des années, on s'est réunis avec plein de jeunes musiciens kérotes, égyptiens, chez lui. On se réunissait tous les jours à peu près au moment du Maghreb, donc la prière de la fin du jour. On se réunissait chez lui pour jouer sa musique. Et il nous faisait jouer les morceaux qu'il avait composés. Et il passait un temps fou à nous faire répéter et à nous dire « Ah ben non, regarde cette note, tu l'as pas bien jouée. » Et donc il nous faisait répéter la note jusqu'à temps qu'elle lui paraisse signifier quelque chose. Et c'était incroyable parce que tous ces cours-là, il nous les a donnés gratuitement, tous les jours, pendant des années. On a été apprendre chez lui. Il nous offrait le thé. Il nous a jamais demandé une livre égyptienne, rien. On recevait un enseignement gratuit chez lui, à la maison, tous les jours. C'était sublime. Et donc, j'ai eu cette chance incroyable et... Quand j'ai décidé de retourner au Caire après 11 ans d'absence pour enregistrer ce disque-là dont on vient d'écouter un extrait, j'avais envie de rendre hommage à tous ces gens qui m'ont accueilli là-bas, qui m'ont accompagné, qui m'ont enseigné, qui m'ont protégé parfois, sauvé même parfois. Et j'ai eu envie de rendre hommage à Abdou Darir et donc j'ai composé ce morceau un peu dans son style. Bon, c'est un album qui est un peu particulier parce que c'est pas vraiment mon style. C'est moi qui fais, c'est mon style évidemment parce que c'est moi, je peux pas me changer. Mais c'est un peu un exercice de style aussi où j'écris à la manière égyptienne. Et je me rappelle de sa réaction, c'était trop mignon. Quand il a entendu le morceau, je lui ai dit Abdo. Alors Amr Abdo, en fait lui il s'appelle Abdou Darir, mais Amr Abdo ça veut dire oncle Abdo. C'est comme ça qu'on l'appelait. Je lui ai dit oncle Abdo, est-ce que tu voudrais bien enregistrer sur mon disque, j'ai écrit un morceau pour toi qui s'appelle oncle Abdo. Il m'a dit ah oui et tout super, vas-y fais-moi écouter la composition. Je lui ai fait écouter, il m'a dit Eda, ben eti moi les fagam taget dan. Ça veut dire quoi? Mais tu es devenue une compositrice très très forte. Et en fait, je sais, ça lui a plu parce que c'était son style que j'avais imité.
Ah, c'est super.
Ouais, c'est tellement mignon.
Et alors du coup, tu l'as pas demandé de jouer dessus?
Si, c'est lui qui joue tout le tarsim de violon, toute la partie au milieu où on entend le violon qui fait son solo.
C'est lui. Bien sûr, c'est le premier.
Et c'est un des derniers enregistrements de sa vie. C'était à l'époque, il était vraiment vieux, quoi. Il avait à peu près, je pense, il avait 80 ans, un truc comme ça. C'est un des derniers enregistrements de sa vie.
Abdou Darir.
Ouais, Abdou Darir, ouais.
Oui, c'est le premier nom, effectivement, qui est crédité dans la longue liste des musiciens. Tiens, je voulais te demander, je me demandais si un de tes répertoires, notamment Rhythm of Resistance, avait été écrit pendant le Covid. Qu'est-ce que tu as fait pendant le Covid, toi, pendant notamment les périodes de... Comment on appelait ça, t'avais pas le droit de sortir, mais comment ça?
De confinement. Ouais, j'ai écrit Healing Rituals.
Ah c'est ça, ouais. Alors on va y venir après, d'accord, super. Ouais. Et je voulais qu'on dise un mot également du label, les couleurs du temps.
Du son,
ouais pardon, je ne l'avais pas sous les yeux. Couleurs du son, j'ai fait une mémoire, donc c'est pas bon ça. Les couleurs du son, et puis qui c'est aussi le nom de ta compagnie, la compagnie qui accompagne tes projets. Est-ce que tu peux en dire quelques mots de ça?
Bah, que je suis une artiste indépendante, oui. Que quand tu frappes à toutes les portes et qu'il n'y en a aucune qui s'ouvre, t'as pas d'autre choix que de créer ton truc, quoi.
Ah oui.
Bah oui, c'est-à-dire que moi, avant de monter, de créer les couleurs du son et de monter ce label et cette compagnie et tout ça, j'ai passé plusieurs années à démarcher des producteurs, des bookers, des agents, des managers, des programmateurs. J'ai appelé tout le monde.
Ah bah d'accord.
Et tout le monde m'envoyait chier.
Ouais, ouais.
Et voilà. Et donc du coup, je m'en fous. Ouais. Je vais quand même être musicienne. Je vais monter mon truc.
Ah bah c'est super. Et puis du coup, c'est pas eux qui ont eu la victoire de la musique, c'est toi.
C'est ça.
Ah bah super. Dans la catégorie, ça m'a fait rire. Quand même la catégorie inclassable.
Bah ouais. Faut croire que c'est un leitmotiv dans ma vie.
Ah bah ça nous plaît bien. On va écouter maintenant une autre de tes formations. Quest of the Invisible.
Quest of the Invisible, ouais.
Merci. Et puis on en parle après.
Oh.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec Naïssam Djalal aujourd'hui. Et alors, Naïssam, on vient d'écouter un extrait de Quest of the Invisible. Pour commencer, quels sont les musiciens qui t'accompagnent dans ce groupe ?
Claude Chamichian à la basse et Leonardo Montana au piano.
Voilà, c'est un trio. Donc, quelle était ton idée en créant ce trio ? Quelle musique voulais-tu produire, créer ?
J'ai essayé d'aller plus loin que ce que j'avais fait déjà sur le lien entre musique et spiritualité, et le lien donc entre musique et transe, et le lien entre musique et silence. Ouais. En fait, voilà, c'est des questions qui m'interrogent beaucoup, c'est des directions esthétiques et aussi humaines, ouais, qui sont hyper, je pense, importantes pour moi. Pour plein de raisons, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très en colère.